Chapitre 16. La maison de la vieille dame. 19h50. À travers les mailles du rideau de la fenêtre, Martial observe discrètement les cases de la rue des Maldives. L'halogène réglée sur l'intensité minimum se contente de diffuser dans la pièce une lumière tamisée, impossible à percevoir de l'extérieur. Entrer dans la case de Chantal Letellier s'est avéré presque plus simple que prévu. La maison était décrite jusque dans ses moindres détails sur le site www.papvacances.fr. D'après le plan et les photos, la fenêtre de la salle de bain était à la fois la plus discrète et la plus facile à briser. Le plus difficile, au fond, fut d'expliquer l'effraction à Sopha. C'est une vieille dame qui nous prête sa maison, ma puce. Mais elle a oublié de nous laisser les clés. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste contentée d'attendre qu'il lui ouvre la baie vitrée de la véranda, puis de laisser traîner son regard sur les murs, d'examiner avec curiosité les photos de cette mamie aux cheveux bleus qu'elle ne connaît pas, entourée de petits enfants blonds et bronzés, un garçon d'une dizaine d'années et un autre presque de son âge. Des clichés joyeux des gosses posant au milieu du croque-parc, la ferme des crocodiles de l'étang salé, devant les fils d'argent de la cascade du voile de la mariée, dans un champ de canne à sucre trois fois plus haute qu'eux. Martial continue de guetter la moindre trace de vie dans le lotissement désert. Une ombre sous les fils à eau, un souffle à la surface d'une piscine, un bruit de pas sur le trottoir. Dans ce quartier de retraités presque inhabité, les rares résidents permanents passent sans doute leur temps à épier chaque détail inhabituel. Le genre a téléphoné aux flics pour un rideau qui a bougé, une lumière oubliée, une porte de garage ouverte. Martial a préféré prendre le risque. Il a laissé entrouverte la grille de fer du garage, juste assez pour que, de la rue, on puisse constater qu'il est vide. Il a repéré les flics, il y a 2 heures, à l'autre bout du lotissement. Il semblait ouvrir des garages de cases, plus ou moins au hasard, sans doute à la recherche d'une Clio grise de location. Si les gendarmes passent devant la case de Chantal Letellier et n'observent qu'une maison fermée, silencieuse, noire, garage vide, ils ne s'arrêteront pas. Du moins, c'est probable. Martial se recule et attrape la télécommande du petit téléviseur. Il règle le son au minimum et allume l'écran. Il s'effondre dans le canapé. Sopha dort à côté, dans la chambre du petit-fils de Chantal Letellier. Une jolie chambrette de 8 mètres carrés, décorée de marionnettes créoles, de coquillages et d'étoiles de mer, de cerfs-volants et de petits voiliers. Sopha s'est montrée obéissante. Trop obéissante. Presque silencieuse. À vrai dire, Martial n'a aucun repère. C'est la première fois qu'il se retrouve seul avec elle. Quelles idées peuvent traverser la tête de cette gamine protégée depuis sa naissance comme une poupée de verre? De quelle force dispose-t-elle pour résister à cette avalanche d'événements? Bien sûr, elle l'a embrassée. Elle lui a souri. Elle a répondu par « Oui, papa » à son maladroit « Bonne nuit, ma puce ». Mais au fond d'elle, que peut-elle penser de lui? 20h45. Sur Réunion Première, le journal télévisé passe en boucle depuis près d'une heure. Pour la 3e fois, Martial observe la photo de Liane s'afficher sur l'écran. Puis, sur l'image suivante, l'annonce du déclenchement du plan Papang, l'équivalent réunionnais du plan Épervier. Le numéro du Comgend défile sur un bandeau en bas de l'écran pendant que sa propre photographie apparaît, puis celle de Sopha. La voix off d'un autre commentateur égrène des arguments définitifs. Double meurtre, preuves édifiantes, dangereux et peut-être armés. Appel à témoins. Les portraits de Martial et de Sopha disparaissent enfin pour laisser place aux journalistes affligés qui en rajoutent à chaque nouveau flash. Urgence, vigilance, prudence. Martial se cale dans le canapé, pose ses pieds sur la table basse devant lui. Il se sent étrangement calme, presque étranger à cette agitation qu'il a engendrée, dont il connaît pourtant les effroyables conséquences. Comme un gamin inconscient qui a craqué une allumette dans un champ de paille, qui a jeté une pierre sur l'autoroute un jour de grand départ, et qui constate les dégâts sans aucun moyen de modifier le cours des événements. 20h51.
Papa a tué maman. Je m'en doutais bien depuis les enfants de la piscine, mais j'en suis sûre maintenant. Ils l'ont dit aux informations. Plusieurs fois. Papa a mis la télé tout bas, mais j'ai tout de même entendu. Il y a nos photos aussi. Papa a tué maman. J'ai l'impression que cela fait des heures que je me tiens debout derrière la porte ouverte du salon. J'ai essayé de dormir, vraiment longtemps, mais je n'y suis pas arrivée. Impossible. Je suis descendue de mon lit et je suis venue doucement, sans bruit. Papa m'a dit de ne pas parler fort, de ne rien renverser, de ne pas allumer la lumière. Papa est dans le canapé, mais d'où je suis, je ne vois que le bout de ses chaussures sur la petite table. Sauf quand il se lève, qu'il va vers la fenêtre, qu'il regarde dehors à travers le rideau. Comme là. Le bruit de voiture dans la rue est d'un coup plus fort que les paroles de la télévision. Il y a comme un éclair de phare qui traverse la pièce. Puis plus rien, la voiture est passée. Papa guette toujours. Je ne vais pas parler fort. Juste assez pour que papa m'entende plus que les journalistes dans la télévision. Papa, est-ce qu'elle a eu mal, maman, quand tu l'as tuée ?
20h52. Martial se retourne brusquement, comme électrocuté. La seule chose qu'il trouve à répondre à Sofa est de mettre un doigt devant sa bouche. Des lampes s'allument dans la maison la plus proche. Des voisins qui rentrent, sans doute. Martial a gardé la télécommande en main. Il coupe le son.
Tais-toi, Sofa.
Il se retourne. Tout se bouscule. Ses pieds ne le soutiennent plus. Sofa gît sur le carrelage de la salle. Une petite flaque de sang coule sous son front.